Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Surianto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi 14 juillet 2016, il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi de commentaires, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Observateur a dit, considérez bien l'opération militaire à libérer les citoyens indonésiens. Les Philippines doivent prendre la responsabilité. L'Indonésie peut mobiliser l'ASEAN pour résoudre des conflits dans la mer de Chine méridionale. Luhut est sûr que les relations entre l'ASEAN et la Chine restent bonnes. BKPM optimiste, le chef de la police soutient la sécurité de l'investissement. Yogyakarta établit la coopération avec la ville de Yangzhou. Et enfin, la Banque mondiale et AIIB aident à améliorer les infrastructures des bidonvilles. Voici le journal complet. L'opération militaire du gouvernement indonésien pour libérer les citoyens indonésiens qui sont retenus en otage par le groupe militant Abu Sayyaf aux Philippines doit bien être considérée, car cela signifie que l'Indonésie est entrée dans le territoire souverain des autres pays. L'observateur militaire et de renseignement Susan Tias Nevo Handayani Kartopati a déclaré cette question à RRI mercredi et expliqué que la loi en Philippines refuse la présence militaire ou la gestion des catastrophes naturelles d'autres pays sans accord préalable. Selon Susan Ningtyas Nevo Handayani Kartopati, le gouvernement philippin doit prendre le rôle parce qu'il est le territoire souverain des Philippines. Par conséquent, ils doivent aussi se préoccuper de l'existence de cette région vulnérable. La mort de 40 personnes du groupe Abu Sayyaf par l'attaque du gouvernement philippin montre que ce pays est en train de résoudre ses problèmes antérieurs afin de ne pas se propager à des régions voisines. Le chef du Centre de recherche politique de l'Institut indonésien des sciences, Adriana, a affirmé que les pays membres de l'ASEAN doivent reconstruire l'engagement commun face à la décision de la Cour permanente d'arbitrage international, CPA, sur les conflits dans la mer de Chine méridionale. Adriana, dans les discussions relatives à l'étude des décisions de la CPA liées à la mer de Chine méridionale, a déclaré mercredi à Bogor que l'un des membres de l'ASEAN peut prendre l'initiative de reconstruire l'engagement face à l'impact à long terme de cette décision. Le différend de la mer de Chine méridionale implique la Chine et certains pays de l'Asie, à savoir le Vietnam, les Philippines, Brunei et la Malaisie. Chacun revendique les eaux de la région. Il a expliqué que la stratégie de la Chine, qui aime les relations et le dialogue bilatéral, pourrait être profitée par l'Indonésie et les pays de l'Asie pour résoudre les problèmes qui peuvent découler de cette décision. Le verdict a gagné la revendication des Philippines sur la mer de Chine méridionale. Selon Adriana, la Chine est un pays qui ne veut jamais suivre toute la partie, y compris le droit international. Selon le verdict de la Cour permanente d'arbitrage CPA à La Haye aux Pays-Bas, la Chine ne dispose pas de droit historique sur les eaux de la mer de Chine méridionale et a violé les droits souverains des Philippines. Le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, croit que les relations entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et la Chine resteront bonnes liées aux tensions dans la mer de Chine du Sud. Cela a été dit par Luhut Binsar Panjaitan dans le palais présidentiel à Jakarta mercredi. Selon lui, l'Indonésie apprécie ou respecte le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS 1982. L'Indonésie va maintenir des amitiés avec la Chine. Luhut a offert une réunion avec le président Joko Widodo et la ministre des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, liée aux tensions dans la mer de Chine du Sud. Il a aussi dit sur la réticence chinoise de respecter la Cour permanente d'arbitrage CPA. Mardi, la Cour permanente d'arbitrage CPA à La Haye, les Pays-Bas, a publié une décision finale dans la résolution du cas de litige Philippines-Chine dans la mer de Chine méridionale qui, entre autres, a rejeté la demande de la Chine liée à 9 lignes de tirée comme les zones marines traditionnelles. Le chef du Conseil de coordination des investissements, Franky Sibarani, optimise que l'investiture du chef de la police, le général Tito Karnavian, renforce la synergie avec la police dans l'investissement, en particulier une garantie de sécurité pour les projets d'investissement. L'investissement sera mieux avec le soutien des garanties de sécurité de la police. Le Conseil de coordination des investissements continuera et renforcera les synergies pour améliorer le climat et la compétitivité d'investissement en Indonésie. Cela a été dit par Franky dans un communiqué de presse à Jakarta jeudi. La municipalité de Yogyakarta établit la coopération avec la ville de Yangzhou en Chine dans certains domaines, entre autres le tourisme, l'éducation et la culture. C'est ce qu'a affirmé le vice-secrétaire général du gouvernement municipal de Yangzhou, Zhu Yong, lors de la signature de la coopération à Yogyakarta mercredi. Selon lui, la ville de Yogyakarta et la ville de Yangzhou ont un certain nombre de similitudes. Entre autres, les deux villes ont une destination touristique et possèdent beaucoup de bâtiments patrimoniaux avec la grande valeur historique. En plus du domaine touristique, la coopération dans le domaine de l'agriculture pourrait être grande ouverte, même à Yangzhou, il y a une usine qui produit des machines agricoles. Pendant ce temps, le maire de Yogyakarta, Haryadi Suyuti, espère que la coopération entre les deux villes peut être réalisée. Il a également déclaré qu'il répondrait à une invitation pour visiter cette ville dans un proche avenir. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIIB, et la Banque mondiale ont convenu le schéma de financement conjoint d'un montant de 216,5 millions de dollars américains pour soutenir les projets du gouvernement dans l'amélioration des infrastructures pour les bidonvilles. C'est ce qu'a affirmé le chef de représentant de la Banque mondiale en Indonésie, Rodrigo Chavez, lié à l'aide du financement mercredi à Jakarta. Savage a espéré que l'aide de financement soutiendra le programme national des villes sans bidonville ou Kotaku, qui pourrait fournir des avantages à plus de 9,7 millions de communautés urbaines pauvres dans tous les coins de l'Indonésie. Kotaku est une plateforme de coopération nationale dont les sources de financement proviennent entre autres des gouvernements locaux et le gouvernement central, le secteur privé, la communauté et les banques de développement multilatéral. Le gouvernement indonésien fournit la plupart des fonds d'1,3 milliard de dollars américains pour un programme de 5 ans qui est également soutenu en parallèle à travers le financement de la Banque islamique de développement, ISDB, et le gouvernement australien via le ministère des Affaires étrangères et du Commerce par un appui technique. Kotaku sera effectué dans 154 villes, y compris la capitale de Jakarta. Afin de fournir une meilleure source d'eau, l'assainissement, les routes, le drainage et les déchets solides. C'est le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sergem Longten, pour la revue suivante, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Le nouveau chef de la police indonésienne apporte la nouvelle nuance ». Chers auditeurs, le commentaire d'aujourd'hui est lié à l'investiture du nouvel chef de la police indonésienne qui apporte la nouvelle nuance de changement et les nouvelles idées chez la police indonésienne. Après avoir passé un test de compétences et d'honorabilité au Parlement, le candidat proposé par le gouvernement, Tito Karnavian, a finalement prêté serment comme nouveau chef de la police par le président Joko Widodo au Palais d'État mercredi et il a également été promu de commissaire général au général de police. Dans un discours de l'inauguration, le président Joko Widodo a exprimé ses félicitations à l'investiture de Tito Karnavian en tant que nouveau chef de police qui a reçu le mandat, la confiance et la responsabilité de l'État pour assurer et maintenir la sécurité et l'ordre public. En outre, le président Joko Widodo a demandé au nouveau chef de la police de mener des réformes approfondies et cohérentes chez la police. Pendant ce temps, l'ancien chef de la police, Badruddin Haiti, a dit qu'il a livré les programmes qui ont été atteints et les priorités en 2015 et au premier semestre de 2016 pour être considéré par le nouveau chef de la police, Tito Karnavian. En outre, Badruddin Haiti a également demandé au nouveau chef de la police, Tito Karnavian, de se concentrer sur l'amélioration de la qualité du personnel de police. Dans le cadre de l'inauguration du nouveau chef de la police, le vice-président du Parlement, Fadli Zon, a dit que la nouvelle position desservie par Tito Karnavian n'est pas un cadeau, mais un mandat du peuple qui doit être bien maintenu et bien accompli. Certaines tâches doivent être adressées par le général Tito Karnavian à la fois dans interne ou externe de la police. Fadli Zon a confirmé concernant ces questions de la criminalité, du taux normal jusqu'au problème de la circulation deviennent également l'attention de Tito Karnavian. Pendant ce temps, l'ancien président Susilo Bambang Yudhoyono, dans une vidéo spéciale transmise à travers son site vidéo sur les médias sociaux, le jeudi 16 juin 2016, a salué Tito Karnavian comme une figure incroyable et il a assuré que Tito Karnavian était en mesure d'accomplir ses fonctions en tant que chef de la police. Même s'il est encore junior dans le haut rang des officiers de police existants. Susilo Bambang Yudhoyono a également expliqué dans la promotion de rang, il y avait deux choses à être en considération primordiale à la fois dans la police et les institutions militaires, à savoir la capacité et l'ancienneté. Il suppose que ce qui est important est la capacité d'abord, puis l'ancienneté. L'inauguration du nouveau chef de la police, Tito Karnavian, est une nouvelle percée par le gouvernement du président Joko Widodo parce qu'il brise la tradition existante, à savoir de l'ethnie javanaise. Pendant ce temps, Tito Karnavian vient de Sumatra, l'ethnie de Palembang. En outre, la mesure prise par le président Joko Widodo n'est pas risquée parce que la nomination de Tito Canavian signifie qu'au moins cela entraverait le rang de cadre supérieur. Mais avec l'esprit de réforme au sein de la police demandé par le président Joko Widodo, cela prendra la police nationale indonésienne à la bonne voie pour mener bien leurs fonctions compte tenu des défis, les menaces et le droit de sécurité sont maintenant plus diversifiés et réels. Chers amis, c'est le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, écoutez maintenant notre programme aujourd'hui dans l'histoire de l'édition 14 juillet. Nous allons commencer au 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Les Parisiens, excédés par la lutte, puis se renversent la prison de la Bastille. Le gouverneur de Launay, qui détient les clés de la forteresse, est sommé de les remettre aux insurgés. Mais certains réfractionnaires réussissent à pénétrer dans la sainte de Launay en donne d'ouvrir le feu. Plus de 80 Parisiens sont tués. En fin d'après-midi, le gouverneur capitule. Il est tué une heure plus tard. La prise de la Bastille marque le point de départ du mouvement révolutionnaire français. Le symbole de l'arbitraire royal est tombé. L'ancien régime touche à sa fin. On chance le 14 juillet 1958 sous la révolution d'Irak. Le roi d'eau est renversé par le nationaliste arabe Abdel Karim Qassem, a devenu le nouveau leader d'Irak. Faisal II d'Irak est le roi qui a dirigé l'Irak entre 1939 et 1958. Faisal a fait seulement 3 ans quand le 4 avril 1939 a été couronné comme roi Ghazi de l'Irak après la mort de son père dans un accident de voiture. Entre le 4 avril 1939 et 2 mai 1953, son oncle Abdallah al-Ilah comme régent jusqu'à roi Faisal d'Az. De la date de 2 mai 1953, Faisal a obtenu de nouvelles centrales complètes. Faisal a été instruit à Harrow School au Royaume-Uni. En 1958, des émeutes ont éclaté en Irak qui popent une révolution sous la direction de Abdel Karim Qassem. Le 14 juillet 1958, King Faisal est mort dans la révolution. Faisal II est le dernier roi d'Irak. On termine le 14 juillet 1960, lancement de l'opération des Nations Unies au Congo. L'ONU envoie ses forces militaires au Congo où les tensions s'intensifient, le Congo vient de proclamer son indépendance, mais des révoltes éclatent. Renforcées par l'arrivée de nouvelles forces belges venues protéger les leurs. Face aux menaces, le premier ministre Lumumba demande l'aide de l'ONU qui ne tarde pas à intervenir. L'ONU, l'opération des Nations Unies au Congo, compte près de 20 000 militaires chargés de veiller au bon déroulement du retrait des troupes belges. Toutefois, les tensions ne se passeront pas. Mobutu prend le pouvoir en septembre, soutenu par l'ONU. Lumumba, quant à lui, sera arrêté puis assassiné. On arrêtera alors l'ONU d'en être en partie responsable de l'URSS. Ces auditeurs auditifs, c'était aujourd'hui dans l'histoire, l'édition 14 juillet. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'amnistie fiscale favorable les micro, petites et moyennes entreprises ». La politique d'amnistie fiscale est non seulement pour les riches, mais aussi les micro, petites et moyennes entreprises qui n'ont pas encore apporté leur taxe d'affaires. On espère que cette politique aura un bon impact pour le secteur industriel. Il est dit par le chef de l'Agence nationale de planification et de développement, ou BAPENAS, M. Sofiane Jalil, le mardi. Le gouvernement espère que l'amnistie fiscale pourrait apporter un impact à long terme. Par ailleurs, le budget d'État, ou APBN 2016, a récemment révisé de sorte qu'il fera les meilleures conditions fiscales dans ce pays. Sofiane Jalil a déclaré que l'amnistie fiscale était non seulement pour les gens riches qui ont de l'argent à l'étranger, mais aussi pour les milieux de PME qui n'ont pas encore apporté leur taxe d'affaires. Le président de l'Association des micro, petites et moyennes entreprises, M. Iksan Ingratubun, a déclaré que les politiques d'amnistie fiscale peuvent donner l'avantage aux PME. Par conséquent, le gouvernement doit immédiatement promulguer des lois, des instructions techniques jusqu'à son exécution au bureau des impôts. Selon Iksan, le gouvernement devait immédiatement rendre les instructions techniques pour que les petites et moyennes entreprises puissent se faire enregistrer et obtenir le tarif approprié. Selon lui, si possible, la réduction du tarif pour les petites et moyennes entreprises est plus faible que les grandes entreprises. En outre, l'amnistie fiscale pourrait également faciliter les PME à obtenir les investisseurs. Ainsi, les PME peuvent être compétitifs à l'échelle nationale. Le président de l'Association indonésienne des employeurs, ou APINDO, du secteur des petites et moyennes entreprises, Nina Tursina, a demandé au gouvernement de socialiser et de l'aide aux entrepreneurs des PME dans la mise en œuvre de l'amnistie fiscale. Parce que jusqu'à présent, l'homme d'affaires est toujours sombre, ne comprend pas les avantages et les procédures si vous souhaitez participer à la politique. Donc, la majorité des PME ne sont pas prêtes à participer à une amnistie fiscale. Chers amis, c'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'opération militaire du gouvernement indonésien pour libérer les citoyens indonésiens qui sont retenus en otage par le groupe militant Abu Sayyaf aux Philippines doit bien être considérée, car cela signifie que l'Indonésie est entrée dans le territoire souverain des autres pays. L'observateur militaire et de renseignement Susan Ningtyas Nevo Handayani Kartopati a déclaré cette question à RRI mercredi et expliqué que la loi en Philippines refuse la présence militaire ou la gestion des catastrophes naturelles d'autres pays sans accord préalable. Selon Susan Ningtyas Nevo Handayani Kartopati, le gouvernement philippin doit prendre le rôle parce qu'il est le territoire souverain des Philippines. Par conséquent, ils doivent aussi se préoccuper de l'existence de cette région vulnérable. La mort de 40 personnes du groupe Abu Sayyaf par l'attaque du gouvernement philippin montre que ce pays est en train de résoudre ses problèmes antérieurs afin de ne pas se propager à des régions voisines. Le chef du Centre de recherche politique de l'Institut indonésien de sciences, Adriana, a affirmé que les pays membres de l'ASEAN doivent reconstruire l'engagement commun face à la décision de la Cour permanente d'arbitrage international, CPA, sur les conflits dans la mer de Chine méridionale. Adriana dans les discussions relatives à l'étude des décisions de la CPA liées à la mer de Chine méridionale a déclaré mercredi à Bogor que l'un des membres de l'ASEAN peut prendre l'initiative de reconstruire l'engagement face à l'impact à long terme de cette décision. Le différend de la mer de Chine méridionale implique la Chine et certains pays de l'ASEAN, à savoir le Vietnam, les Philippines, Brunei et la Malaisie. Chacun revendique les eaux de la région. Il a expliqué que la stratégie de la Chine, qui aime les relations et le dialogue bilatéral, pourrait être profitée par l'Indonésie et les pays de l'ASEAN pour résoudre les problèmes qui peuvent découler de cette décision. Le verdict a gagné la revendication des Philippines sur la mer de Chine méridionale. Selon Adriana, la Chine est un pays qui ne veut jamais suivre toute la partie, y compris le droit international. Selon le verdict de la Cour permanente d'arbitrage CPA à La Haye aux Pays-Bas, la Chine ne dispose pas de droits historiques sur les eaux de la mer de Chine méridionale et a violé les droits souverains des Philippines. Le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, croit que les relations entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et la Chine restera bonnes liées aux tensions dans la mer de Chine du Sud. Cela a été dit par Luhut Binsar Panjaitan dans le palais présidentiel à Jakarta mercredi. Selon lui, l'Indonésie apprécie ou respecte le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS 1982. L'Indonésie va maintenir des amitiés avec la Chine. Luhut a offert une réunion avec le président Joko Widodo et la ministre des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, liée aux tensions dans la mer de Chine du Sud. Il a aussi dit sur la réticence chinoise de respecter la Cour permanente d'arbitrage CPA. Mardi, la Cour permanente d'arbitrage CPA à La Haye, les Pays-Bas, a publié une décision finale dans la résolution du cas de litige Philippines-Chine dans la mer de Chine méridionale qui, entre autres, a rejeté la demande de la Chine liée à 9 lignes de tirée comme les zones marines traditionnelles. Le chef du Conseil de coordination des investissements, Frankie Sibarani, optimise que l'investiture du chef de la police, le général Tito Karnavian, renforce la synergie avec la police dans l'investissement, en particulier une garantie de sécurité pour les projets d'investissement. L'investissement sera mieux avec le soutien des garanties de sécurité de la police. Le Conseil de coordination des investissements continuera et renforcera les synergies pour améliorer le climat et la compétitivité d'investissement en Indonésie. Cela a été dit par Franky dans un communiqué de presse à Jakarta jeudi. La municipalité de Yogyakarta établit la coopération avec la ville de Yangzhou en Chine dans certains domaines, entre autres le tourisme, l'éducation et la culture. C'est ce qu'a affirmé le vice-secrétaire général du gouvernement municipal de Yangzhou, Zhu Yong, lors de la signature de la coopération à Yogyakarta mercredi. Selon lui, la ville de Yogyakarta et la ville de Yangzhou ont un certain nombre de similitudes. Entre autres, les deux villes ont une destination touristique et possèdent beaucoup de bâtiments patrimoniaux avec la grande valeur historique. En plus du domaine touristique, la coopération dans le domaine de l'agriculture pourrait être grande ouverte, même à Yangzhou, il y a une usine qui produit des machines agricoles. Pendant ce temps, le maire de Yogyakarta, Haryadi Suyuti, espère que la coopération entre les deux villes peut être réalisée. Il a également déclaré qu'il répondrait à une invitation pour visiter cette ville dans un proche avenir. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIIB, et la Banque mondiale ont convenu le schéma de financement conjoint d'un montant de 216,5 millions de dollars américains pour soutenir les projets du gouvernement dans l'amélioration des infrastructures pour les bidonvilles. C'est ce qu'a affirmé le chef de représentant de la Banque mondiale en Indonésie, Rodrigo Chavez, lié à l'aide du financement mercredi à Jakarta. Chavez a espéré que l'aide de financement soutiendra le programme national des villes sans bidonville ou Kotaku, qui pourrait fournir des avantages à plus de 9,7 millions de communautés urbaines pauvres dans tous les coins de l'Indonésie. Kotaku est une plateforme de coopération nationale dont les sources de financement proviennent entre autres des gouvernements locaux et le gouvernement central, le secteur privé, la communauté et les banques de développement multilatéral. Le gouvernement indonésien fournit la plupart des fonds d'1,3 milliard de dollars américains pour un programme de 5 ans qui est également soutenu en parallèle à travers le financement de la Banque islamique de développement, ISDB, et le gouvernement australien via le ministère des Affaires étrangères et du Commerce par un appui technique. Kotaku sera effectué dans 154 villes, y compris la capitale de Jakarta. Afin de fournir une meilleure source d'eau, l'assainissement, les routes, le drainage et les déchets solides. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à voyager au Mont Ungaran, situé dans la province de Java Central.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Le Mont Ungaran et le volcan Strato possèdent trois sommets tels que Gendol, Botak et Ungaran. Le plus haut sommet est Ungaran. Ce volcan est situé dans le centre de l'île de Java, au sud de la ville de Semarang, à une altitude de 2050 mètres au-dessous du niveau de la mer. Le Mont Ungaran peut être monté de trois sentiers de randonnée qui traversent Jimbaran, Medini et Gedong Songo. La montée au Mont Ungaran offre également des vues sur le lever du soleil avec une chaîne de montagne du haut. Grimper au sommet Ungaran, il y a beaucoup d'endroits intéressants que vous pouvez visiter. Sur les pentes, il y a des sites archéologiques tels que le temple Gedong Songo. Il y a aussi quelques cascades en Indonésien, le Curug, entre autres le Curug Semirang et le Curug Lawi. Vous y trouverez également une grotte qui est connue comme la grotte du Japon, située à 200 mètres avant le sommet. La grotte du Japon est l'ancien refuge des forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette grotte est le long couloir à environ 150 mètres. Il y a des salles à gauche et à droite du couloir, à trois entrées comme un avant. Cette grotte se trouve dans le village de Promasan. Promasan est un village situé au milieu des jardins de thé Medini et le complexe de la résidence de cueilleurs de thé et la superficie du jardin de thé Medini atteint environ 380 hectares. D'autres attractions qui doivent être visitées lors d'une randonnée du Mont Ungaran est Umbul Sido Mukti. D'habitude, les grimpeurs marchés ne passent pas ce sentier de randonnée parce que la distance va doubler. Mais si vous êtes un grimpeur qui a beaucoup de temps, vous pouvez arrêter à Umbul Sido Mukti afin de profiter du paysage. Umbul Sido Mukti est maintenant devenue une zone touristique intégrée. Cette zone touristique est équipée, entre autres, par la formation Outbound, Adrenaline Game, le parc naturel de la natation, terrain de camping et la salle de la réunion. En plus de l'alpinisme et arrêté à des endroits intéressants pendant la montée, vous pouvez profiter de la beauté du Mont Ungaran pour essayer le parapente. Vous pouvez voir le Rawa Pening, Ambarawa, la ville Ungaran, Salatiga, y compris le logement et la rizière. Le fournisseur de services de parapente existe dans la zone de camping au pied du Mont Ungaran. Si vous voulez essayer le parapente, il faut payer 350 000 rupiah. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, serviteurs du monde entier. Voici l'église en couleurs. Pour l'édition ce soir, nous vous invitons à connaître l'événement de Super Semak au Surat Printa 11 Maret ou l'Odre du 11 Mars. Super Semak est une lettre qui est présente lorsque l'Indonésie est dans un état précaire. Toutefois, le processus de Super Semak qui a finalement été signé par le président Sukarno jusqu'à présent n'est pas clair. Chaque événement, il y a toujours deux côtés de l'histoire. Cela arrive aussi dans le cas Super Semak. Ce qui est connu par la société indonésienne jusqu'à présent est que le président a remis les rênes du pouvoir indonésien au major général Suharto en 1966 à travers une lettre de mandat. Par l'intermédiaire de cette lettre, le président ordonne au général Suharto de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le calme, la stabilité du gouvernement et la bonne marche de la révolution. Cet ordre sera considéré par Suharto comme un transfert de pouvoir. La plupart des historiens indonésiens disent qu'il y a diverses versions de Super Semak ou ordre du 11 mars, si bien qu'ils tracent cet ordre émis par le président Sukarno au palais de Bogor. Super Semak est arrivé à Jakarta le 12 mars 1966 à 1h, heure locale, qui est porté par le secrétaire du quartier général de l'armée de terre, le général de brigade Budiono. Super Semak manquait dans les archives de l'État quand beaucoup de gens indonésiens qui osent de remettre en question la vérité du contenu de cet ordre. Jusqu'à présent, on ne savait pas ce que le contenu de Super Semak qui est mis dans les archives de l'État. Marcher dans l'obscurité, nous ne pouvons certainement pas voir nos directions et objectifs. Ceci est ce qui est arrivé dans Super Semak, dont la vérité est toujours en cours d'exécution dans l'obscurité. On ne sait pas jusqu'à quand la vérité sur le processus de la naissance et le contenu de Super Semak sera révélée. Parce que maintenant, toutes les figures qui sont impliquées directement dans cet événement étaient mortes. Malgré les Indonésiens effectuent encore la vie politique de manière démocratique. comme les deux faces d'une pièce de monnaie qui est différente, mais dans la même forme. La vérité parfois sera mieux pas divulguée. Peut-être cela qui se passe dans le cas de Supersmart. Dans un discours, Sukarno a dit à la jeune génération de l'Indonésie que la lutte de la jeune génération de l'Indonésie sera plus difficile que la lutte contre les envahisseurs, parce qu'ils doivent lutter pour obtenir l'indépendance de vos propres compatriotes. La grande question pour le peuple de l'Indonésie n'a pas encore été répondue par le gouvernement actuel. Cependant, les efforts pour élever l'esprit combatif du peuple indonésien sont encore embarqués et ont commencé à augmenter à nouveau. Pourtant, la vérité de ce parchemin qui n'a pas été révélée ne sera pas freinée l'esprit de combat du peuple indonésien à vivre une vie de liberté. Supersmart sera les rayures dans l'histoire de la vie indonésienne. Serviteur, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse senior, Ermi Mariam Nurjana Kulit, ou plus connue avec le nom Ermi Kulit, qui a commencé à exister dans l'industrie de musique jazz en Indonésie à l'ère 70. Bon, serviteur, pour ouvrir notre rencontre, voici Ermi Kulit avec sa chanson intitulée Kasih. Bonne écoute. Percayalah kepada diriku. Depuis l'enfance, Hermi a montré son talent pour chanter. À un jeune âge, Hermi a souvent chanté aux fêtes d'anniversaire et de mariage des parents à Manado. Mais la performance professionnelle a été commencée lorsqu'elle était à l'école secondaire de la classe 3, après sa performance avec les bandes d'accompagnement comme Meliska, Nadayuda, Dologis et Denos en ville de Manado et ses environs. En 1973, Hermi a déménagé à Jakarta et a chanté à l'hôtel Marco Polo avec le défunt Melky Guslow. Dans cet endroit, elle a appris beaucoup de choses de ses amis seniors. Parce que là-bas, il y avait beaucoup de chanteurs et musiciens indonésiens connus comme Dedi Damhudi, Rudy Damhudi, Ivo Nilakresna, Christine Sukandar, Januar Isak et d'autres. Hermi a sorti un album sous la forme de disque vinyle en 1974. Dans cet album, Hermi a chanté spécialement les chansons de favorite groupe intitulé Cinta à travers la musique pop. Elle a aussi brièvement chanté dans Copacabana et Tropicana avant de partir finalement pour la Malaisie, Singapour et Bangkok. À Copacabana et Tropicana, Hermi a chanté encore les chansons pop indonésiennes et a maîtrisé les genres de chansons de différents rythmes de la danse, waltz, cha-cha, au rythme de la pop shoot. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson d'Hermi Kulit intitulée Pasrah. Bonne écoute. Thank you. Cinquième longtemps, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse jazz, Hermi Kulit. Hermi a retourné en Indonésie en 1981 et a chanté à nouveau. Elle a rencontré avec le compositeur et musicien de jazz, Ireng Maulana, qui plus tard n'est pas seulement un partenaire, mais aussi un mentor en musique. La coopération entre Hermi et Ireng est créée pour la première fois lorsqu'elle a publié l'album Jazz Dixie en 1982. Cet album a été distribué par l'entreprise Iramatara, contenant des chansons pop qui sont bien connues à cette époque, telles que Nikmatnya Cinta, Kidung, Widuri, Mimpi, Benci Tapi Rindu, etc. Ireng n'agit pas seulement comme arrangeur, mais aussi l'initiateur comme le premier debout au studio d'enregistrement avec les chansons de jazz. Bien sûr, la présence d'Hermi a bien accepté après que les amateurs de jazz attendent si longtemps la régénération de Margie Seeger et Rinja Main. Bon, Serge Tar, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson d'Hermi Kulit intitulée « Kusadari ». Bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.